Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karec et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La Bière Patrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité dans ce podcast un homme que j'ai eu l'honneur de côtoyer pendant presque un an et demi, si même pas un petit peu plus, tous les lundis. Comme un peu à l'image de nos deux pays qui aiment se chamailler, la France et la Belgique, le courageux Lillois venait rencontrer le taquin liégeois que je suis. J'ai toujours eu un profond respect pour l'homme bienveillant et attentionné qu'il est. Passionné par le liquide houblonné, il est patron d'une cave à bière située à Lille, où il propose une grande variété de bières issues des Hauts-de-France, mais pas que. Cet homme est multicasquette. Tout au long du podcast, il va pouvoir nous expliquer la phrase qui résume le mieux son travail, et je le cite, « Mon métier, c'est formateur ». Bonjour à vous, monsieur Vincent Beaumont.
Bonjour à tout le monde, bonjour Kevin, et merci de m'accueillir sur ce podcast et chez toi pour cet enregistrement.
C'est avec plaisir. J'attendais ça depuis déjà certains temps. On en parle depuis longtemps, mais évidemment la distance fait que on n'avait pas spécialement facile de goupiller la chose, mais voilà.
Ça demande un peu d'organisation, mais ça s'est fait finalement.
Oui, on y arrive toujours. Hein. Quand on le veut, on y arrive toujours. Alors, je voudrais tout d'abord expliquer en deux mots l'absence du podcast de ces derniers temps. Mis à part deux épisodes de la fin de l'année 2021, où les podcasts avaient été enregistrés en avance par rapport à leur diffusion, en règle générale, la Bière Patrie est en flux tendu. Même si l'actualité brassicole n'est pas systématiquement évoquée dans le podcast, ce flux tendu nous permet de coller un peu plus avec l'actualité et les nouveautés liées à notre cher breuvage. Donc, ayant eu la grande chance d'être contaminé par un virus fort tendance ces deux dernières années, les enregistrements ont été mis en mode pause et donc je n'ai pas su diffuser ces derniers temps. Donc je suis encore plus heureux de vous retrouver cette fois-ci avec, il est vrai, pour mon invité et moi-même, des petits microbes quand même qui ont traîné. On est quand même un tout petit peu malade, vous devez l'entendre à la voix. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors, je ne sais pas toi Vincent, mais moi je commence tout doucement à avoir envie de déguster une bonne bière. Alors, pour tout vous expliquer, il est coutume que je demande à mes invités ce qu'ils aiment comme style avant de choisir une bière pour l'épisode. En règle générale, ça permet à l'invité de profiter pleinement du podcast et moi je peux éventuellement préparer des infos sur cette bière. Ici, en l'occurrence, je ne me suis occupé de rien du tout et c'est Vincent qui me fait la surprise de la bière de l'épisode. Donc Vincent, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui ?
On va boire une bière donc, qui est dans la périphérie de Lille, qui est une brasserie qui s'appelle Les Tours du Malte, qui est située à M exactement, et qui a à cœur de travailler des styles de terroir notamment. Et donc on va goûter aujourd'hui la 200 km. La 200 km, c'est une bière qui est constituée de matières premières qui utilise des matières premières qui proviennent de moins de 200 km autour de la brasserie.
D'accord.
Donc on est sur une vraie bière de terroir, que ça soit pour les maltes, pour les houblons.
Ok. Eh ben on va ouvrir ça. Alors on ne va pas le cacher aux auditeurs, pour ceux qui ont écouté le podcast précédent, on a un autre invité qui est en off, qui va nous ouvrir la bouteille.
Backstage. Donc
ouais, en backstage, c'est Arnaud Radou du dernier épisode. Enfin ça c'est pas son nom de famille, Arnaud Radou du dernier épisode, c'est pas le mot en entier, hein, c'est juste Arnaud Radou. Voilà, on a la bière, je vais la prendre. Merci à toi Arnaud. Vincent, donne-moi ton verre si tu veux bien. Hop, merci beaucoup. Et alors, il est de coutume de le verser devant le micro, donc je vous fais écouter ça. Voici Vincent.
Merci Kevin.
Et je vais me verser un petit coup. Voilà. Et alors, l'invité, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en avoir aussi. Hein.
Ça reste un travail d'être en backstage, de toute façon.
Ouais. Et voici, s'il te plaît. Oups là. Hop. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bière ?
Là, on est sur une bière, on va dire, on est sur une sorte de style saison. Hein, donc on est sur un style qui est originaire du Hainaut, Hainaut belge notamment. Et là, en fait, donc on est sur une bière qui est assez claire, ouais. Avec une belle mousse blanche. Et en portant le verre au nez, on sent tout de suite le côté houblonné de cette bière-là. Et quelque chose de très très vert, de très herbacé.
Oui, c'est ça, herbacé, oui.
Ouais, pas floral, mais vraiment herbe coupée, en fait. On est dans une prairie, en fait, sur cette bière-là.
Oui, mais je suis vraiment d'accord avec toi, avec le côté vert, ouais. Ça me fait vraiment penser à ça.
Et j'expliquerai pourquoi, quand on l'aura goûté, quand on aura expliqué un peu le goût qu'elle a, pourquoi j'aime en particulier ce style de bière. Mais voilà, on sait déjà qu'on est sur une bière houblonnée.
D'accord, ok. Santé, hein.
Santé.
Alors déjà, dans un premier temps, très accessible et très facile
très
à boire.
Très accessible, très facile à boire. On ressent toujours ce côté vert en bouche.
Ouais.
Une légère amertume, mais qui n'est pas prédominante.
Non.
C'est quelque chose de très aromatique, très parfumé. Je pense qu'elle a été travaillée de cette manière-là. Il y a un côté, il y a un peu de blé cru dans la bière, je pense, qui facilite aussi la tenue de mousse, également qui donne un peu d'épaisseur à la bière.
Oui.
On est sur une bière qui est assez légère en alcool. Ça fait longtemps que je l'ai goûtée. Je goûte quelques bières un peu tous les jours, donc je vis, mais on doit être sur une bière à 5,5 en alcool dans ces eaux-là, 5,2. On ne sent pas du tout que le côté aqueux des choses, on ne sent pas que c'est de l'eau, on sent qu'il y a du corps, on sent le parfum du houblon.
Ouais.
Et en fait, moi, j'aime bien ces bières-là parce que ça permet de dire aux gens que le terroir peut s'exprimer, qu'on peut, à partir des matières premières qui sont autour de la brasserie, faire des bières qui sont très parfumées, très aromatiques, avec beaucoup de goût et beaucoup de corps, malgré un faible degré d'alcool. Et ça permet également de, je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast, de former les gens, d'éduquer les gens au fait que le houblon n'est pas qu'amertume, mais peut être également aromatique et parfum, en fait.
Ouais,
et donc
c'est ça.
Pour moi, c'est ce que cette bière-là représente, et c'est ce que j'ai voulu, en tout cas, vous faire découvrir, même si, en tant que zytologue, vous connaissez les palettes aromatiques.
Ouais.
Et moi, c'est ça qui m'intéresse de montrer, en tout cas, dans mon magasin ou n'importe où, de toute façon.
Ouais, c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, évidemment. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne pour le degré d'alcool, donc tu as dit...
5,2.
Ouais. On a quand même une certaine épaisseur en bouche.
C'est ça.
Je suis assez étonné de ce côté matière. Quoi.
C'est ça. Et donc ça permet de dire, c'est pas parce qu'une bière est peu alcoolisée qu'il n'y a pas de goût ou il y a où il y a un côté flotte un peu qui en ressort. Et donc ça, c'est super intéressant.
Oui, vas-y. Excuse-moi.
Non, j'ai juste complété. Moi qui n'aime pas l'amertume dans la bière, spécialement, mais ce n'est que mon goût personnel, et ces bières-là, pour moi, sont super intéressantes parce qu'on exploite surtout l'aromatique, les huiles essentielles des houblons et pas forcément le côté amérisant.
Donc, ouais. Voilà. Et moi, je dois bien t'avouer qu'en première bouche, j'ai quand même le côté céréal.
Oui.
Et l'amertume, j'avale et puis j'ai seulement l'amertume qui arrive après. C'est vraiment très agréable. Je ne connaissais pas du tout, évidemment. Chouette découverte.
Donc on est sur une microbrasserie. Hein. On est, je pense, pour l'instant, en dessous de 1000 hectos par an, hein, ce qui n'est vraiment pas grand-chose comparé à des choses plus connues ou plus industrielles. Mais voilà, ils font leur trou et moi, c'est quelles que soient les bières qui sortent, c'est une brasserie que j'aime bien parce que ils ont des produits simples, c'est un produit très très simple finalement, mais qui a une particularité, une spécificité et après une expression de terroir également.
Super, on va pouvoir la déguster en continuant le podcast.
Ouais.
Moi, ce qui m'a frappé, dernier petit mot sur la bière pour l'instant, ce qui m'a vraiment frappé quand je l'ai versé, c'est la limpidité en fait. Alors, je ne sais pas par rapport aux levures.
C'est parce qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'au fond de la bouteille, mais normalement, la bière n'est pas filtrée, donc il doit y avoir un léger dépôt au fond de la bouteille qui doit apparaître. Petit à petit. Quoi.
Je ne sais pas si on va
Si tu mélanges un petit peu le fond de bouteille et que tu verses dans un verre, on va mieux voir le trouble.
Ouais.
Bah écoute, on essayera peut-être ouais. Après. D'ici là, on va continuer le podcast. De coutume, c'est l'interview si tu n'avais. Alors là, tu as su te préparer, j'en suis sûr.
J'ai un petit peu préparé, c'est vrai.
Allez, je lance le jingle et on se retrouve juste après. Alors, donc, si t'es préparé, tu connais peut-être même l'ordre des questions.
Non, ça, je m'en souviens plus trop. Je vais laisser venir.
Donc, si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait ?
Alors, ça serait de toute façon une bière qui est basée sur les céréales et le malt, parce que je trouve qu'une amertume persistante en bouche me donne pas forcément envie d'en reboire une deuxième ou d'en reboire plus tard. Donc, une bière à dominante maltée ou houblonné mais très aromatique sans aucune amertume derrière et la première qui me vient en tête c'est mon coup de cœur 2021, c'est la Tibériale de chez Rare. Okay. Donc Rare c'est une brasserie pareil qui est dans la métropole lilloise, c'est vraiment une micro, une picot, hein. Il a un peu plus d'un an d'âge maintenant, David. Triple pareil, moderne, dans le sens où c'est tradit, c'est accessible à tout le monde. C'est un peu comme ce qu'on est en train de boire là, c'est très aromatique, il y a un côté houblon frais qui est là. C'est pas lourd du tout, ça se boit tout seul pour 8 degrés. Et donc pour moi, ça c'est une bière en fait qui est très très facile à boire et que je pourrais boire tout le temps en fait. C'est le genre de bière que je prends à la maison, qui fait plaisir à tout le monde.
Ouais, ok. Voilà. Super, on passe à la deuxième. Si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait ?
Ah, alors là, c'est une question difficile.
Alors, on en reparlera plus en détail après, parce que je l'ai déjà évoqué dans la présentation, tu as un commerce, donc il ne faut pas te fâcher avec...
Non, c'est ça. Et donc, je pense que travailler déjà dans une brasserie qui a un bon développement, dans le sens, un bon développement de gamme, avec une diversité assez conséquente, et tout de suite pour la partie Belgique en tout cas, tu te doutes déjà de ma réponse, ça serait soit la brasserie Mine, que j'adore pour ce côté à la fois tradit et moderne et accessible à tout le monde, quelle que soit la référence qu'on trouve chez eux, ou la deuxième, alors je suis désolé pour les auditeurs flamands, de Dorter van de Coronar, pareil, qui est dans le même esprit de travail, d'aller chercher des styles très tradis, travailler de manière moderne, en tout cas très clean et très accessible, quelle que soit la référence.
C'est vrai que leurs produits sont extra. Voilà. J'ai jamais été déçu par...
Non, moi j'ai jamais été déçu. Après, on peut ne pas aimer certaines recettes, c'est ça. C'est des goûts perso qui parlent, mais c'est toujours impec. Et si je dois donner des exemples régionaux, moi j'aime bien les produits de la brasserie Saint-Germain, donc les bières Page 24, pareil, qu'ils ont sur le même type de diversité, avec des styles à la fois simples et des styles des fois un peu plus développés, mais qui restent tradis et accessibles. C'est une brasserie que j'aime bien, et c'est une des premières brasseries qui m'a ouvert les portes quand j'ai commencé mon projet en fait, quoi.
Okay.
Donc qui m'a écouté et qui m'a conseillé sans rien forcément me donner, mais ils m'ont donné du temps, et donc rien que pour ça en fait, ce petit clin d'œil, ça peut suffire pour cette question.
Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait ?
Là c'est compliqué, ça je l'avais préparé. En ce moment je m'intéresse beaucoup au style allemand.
D'accord.
Tout type confondu, tout ce qui est justement bière de blé, les bières de blé fumé du nord de l'Allemagne, mais aussi tout ce qui est bière de Bavière en fait, de Franconie, donc basé sur les levures, les Weizen, F.E. Weizen, Dunkelweizen. Donc rien que pour ça, déjà pour moi c'est un pays que je connais très peu, l'Allemagne, et donc sur une visite, un petit périple brassicole, c'est un pays qui me plairait bien de visiter, même si l'Angleterre me plaît énormément, le Canada, le Québec me plairait énormément aussi, mais l'Allemagne ça me plaît bien.
Ok. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, alors ça peut-être que dans ton magasin, peut-être que c'est déjà arrivé, quelqu'un qui te disait « je n'aime pas la bière
». Ouais, alors c'est souvent, dans la plupart de tes podcasts, c'est toujours à peu près la même réponse. Et donc moi, j'irais sur une bière pâtissière.
Ok.
Donc avec... un ajout de lactose. Le lactose dans la bière, ça permet d'atténuer l'amertume, ou en tout cas pas forcément du lactose, mais ça peut être également l'avoine qui donne un côté très soyeux, très velouté. Donc ouais, ça serait une bière sans amertume, mais j'irais pas sur une bière acide non plus, parce que l'acidité peut rebuter certaines personnes. Et donc après, ça pourrait être un stout, un milk stout par exemple, mais quelque chose de très très doux, plutôt sur le chocolat que le café. Et après, côté fruits, peu importe l'infusion, un pastry, une pastry sour, mais juste acidulé par le fruit et pas acide, pas péchu, pas agressive en tout cas.
Ouais, c'est ça, ouais.
Moi, c'est plutôt sur ces bières-là que j'orienterai ces personnes-là. J'irai pas tout de suite sur les vrais cric traditionnels, voilà, qui peuvent être un petit peu, qui peuvent décontenancer un petit peu le palais sur une première fois qu'on goûte ça, quoi.
Ouais, et sur le côté pastry, t'aurais pas peur d'être, enfin, d'écœuré un petit peu
Non, parce que après, si le produit est bien travaillé et équilibré, ça peut vraiment le faire. Et après, il y a une autre catégorie que je peux proposer aussi en boutique, c'est tout ce qui est lié aux bières barriquées et barriquées en fût de vin blanc ou de vin rouge. Et donc ces barriquages-là apportent de l'acidité, mais c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de très tranché en bouche. Oui. Et donc ça peut faire la transition, en tout cas pour les gens qui boivent du vin, entre le vin et la bière. Je fais beaucoup d'analogies entre le vin et la bière pour expliquer aux gens les styles, les goûts, etc. En fait.
D'accord, ok. Et alors, la petite dernière, la cinquième, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait ?
Ça serait, j'ai envie de dire, peu importe, du moment que c'est en collectif.
Bah alors là,
en fait, donc ça peut être à la maison, autour de la table, mais ça peut être dans un lieu, enfin un peu dans un bar, ça peut être dans un resto, tant que, en fait, pour moi, c'est un produit qui est convivial et qui est fait pour être partagé. Donc tant qu'on est en collectif, moi ça me va, quoi.
Donc il y a de l'échange.
Ouais, c'est ça.
C'est super. Écoute, je te propose de partir sur la discussion autour de l'invité. Donc ouais, je lance mon super petit jingle. C'est à l'autre. Alors, on va en profiter pour reprendre un petit coup, parce que la bouche se dessèche, donc santé à vous.
Donc ouais, cette amertume qui, sur la première gorgée, peut être là en arrière-bouche, en fait, elle disparaît très très vite, quoi.
Ouais.
Donc au bout d'une ou deux minutes, c'est terminé.
C'est
voilà,
ça.
C'est pas... Donc moi, c'est... Ouais, ça correspond vraiment à ce que j'aime bien, quoi.
C'est vraiment... Alors, j'ai peur que ce soit... péjoratif le terme, mais c'est accessible.
Oui, c'est ça.
J'aime pas, parce que souvent on a l'impression que y a pas, comme on disait tantôt, pas beaucoup de matière, pas beaucoup de... Mais oui, c'est facile à boire, c'est agréable à boire. Alors on va parler un petit peu de toi, du coup, parce que c'est discussion autour de l'invité. Peux-tu nous expliquer en quelques mots la genèse du projet, le Houblon Gourmand, donc ton entreprise, ton magasin?
La genèse du projet, donc je vais pas rentrer dans mon CV en détail, hein. J'ai eu des métiers dans le passé qui m'ont fait barouder pas mal en France. Et en fait, mon projet a commencé en 2015, où j'étais sur, je travaillais dans l'industrie, donc j'étais sur un chantier à Royan. Dure journée, hein, 40 degrés, donc avec le collègue, on se dit on prend une douche, puis on va boire un coup. Et en fait, on est tombé dans un bar à bière belge.
Ah, je croyais que t'allais dire un traquenard.
c'est un peu un traquenard. Si je suis là devant toi aujourd'hui, ça pourrait, on pourrait l'interpréter comme ça. Moi, je suis originaire du nord de la France. J'ai grandi dans cette région-là. J'y ai fait mes études. J'y suis resté pour le travail, donc j'ai jamais bougé en fait de cette région. Donc j'ai très vite baigné dans mes années étudiantes sur, à l'époque, on est au début des années 2000, sur les grands noms des bières belges, alors que ça soit les trappistes de manière générale, mais également à l'époque la Leffe quand il y en avait, la Carmélite un petit peu plus tard, etc. Et en 2015, on se retrouve dans un bar à Royan, auprès de Royan, qui s'appelle la Binouzerie, qui était spécialisée dans les références belges. Et je me suis dit, on est dans le Bordelais, en tout cas à la limite entre Charente et région bordelaise, c'est-à-dire une région propice plutôt au vin, en tout cas. Le bar est plein, les gens aiment ça. La bière belge a passé la frontière du Nord-Pas-de-Calais de la Belgique. Il y a quelque chose à faire sur la bière. Et de là, j'ai commencé à me documenter sur la bière, qu'est-ce que la bière, d'où ça vient, puis après on tombe sur des livres ou des articles, le renouveau de la bière artisanale en France, dans le monde, ailleurs, et puis à force de prendre des notes, d'avoir des idées, de les mettre sur des cahiers, on a une petite pile de cahiers qui monte, et on a en fait on a un contenu, on a plein d'infos, et on veut en faire quelque chose, et donc ça c'est une, ça a pris 2 ans à peu près, et en 2017 je me suis dit, j'ai un contenu, il faut que peut-être que je m'entoure de personnes qui puissent me diriger sur monter un projet, comment on monte un business plan, un plan financier, etc. Et donc, ils ont su cadrer un petit peu une étude de marché, comment on l'a fait. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à monter un projet qui, à la base, était plutôt un bar, avec une philosophie que j'ai gardée hein, maintenant dans la boutique, de valoriser l'économie locale. Oui. Donc de mettre en avant des bières plutôt régionales, donc Hauts-de-France. Belge, ça ne m'était pas encore dans l'esprit à l'époque, mais c'est venu finalement très naturellement. Et un bar qui propose des accords bière aimée, notamment. Oui. Parce qu'en me documentant, justement, j'ai découvert qu'on pouvait faire des accords de l'apéro jusqu'au dessert. Donc j'ai écrit d'abord un business plan sur ça. Dans mon parcours, je me suis pris une claque, mais de manière très positive, par Aurélie, ma femme, qui était enceinte à l'époque et qui m'a dit, si tu ouvres un bar, tu me verras plus moi, tu verras pas ton petit, etc. Donc voilà, donc là je me suis pris une claque, mais c'était assez positif pour moi, et donc je me suis dit, c'est tout, je vais rester là-dessus, je vais réécrire le projet, je vais écrire un projet en mode restaurant du midi, oui, qui propose des accords bière aimée, même avec un plat du jour en une demi-heure, on peut proposer un accord avec une bière, quoi. Et donc l'idée générale c'était ça, donc j'ai monté un projet comme ça là-dessus, et puis après au fil du montage, quand on a validé le montage et le business plan, j'ai commencé à chercher un local et je suis tombé sur une cave à bière qui existait déjà à Lille depuis une vingtaine d'années. Les gérants partaient en retraite et donc je me suis dit ça sera pas un restaurant, mais je peux commencer par une cave à bière et c'est un premier pas dans le métier de la bière, et puis on verra où ça me mène. Et donc ça fait 2 ans et demi donc que j'ai repris cette cave à bière sous le nom Le Houblon Gourmand.
Oui, et tu parles de projet, de financement et tout ça. Alors, sans rentrer dans les détails, ça nous regarde pas par rapport à toi, mais est-ce que c'est facile d'aller trouver une banque et de dire, je veux, pour de la bière, je veux ouvrir un commerce ?
C'est facile, je vais faire une réponse de Normand, c'est oui et non. C'est-à-dire que c'est facile dans le sens où si l'étude de marché elle est carrée, elle est compacte et que tu peux prouver à la banque qu'il y a un marché à lancer là-dessus, la banque va te suivre. J'ai eu beaucoup de refus des banques parce que les locaux leur convenaient pas, ou en fait tu allais voir une banque locale mais la décision était prise au siège à Paris et donc c'était des gens qui connaissaient pas du tout le secteur, etc. Et donc la dernière banque qui m'a financé, c'est une banque qui est dans la rue du magasin en fait.
D'accord, okay.
Et donc qui a cru en projet, qui a cru parce qu'il y avait une étude de marché qui était plutôt clean et carré, et donc elle m'a dit on y va sur cette reprise de fonds de commerce là, et puis j'ai eu mon financement de cette manière là.
Oui, et puis ils connaissaient l'endroit.
Et puis après il y a un background, c'est-à-dire j'avais un historique de 20 ans, donc je partais pas de zéro, donc j'avais des bilans financiers à leur proposer des années antérieures, et donc j'ai récupéré également la clientèle qui venait déjà sur une cave à bière, quoi.
Et est-ce qu'ils prenaient en compte, tu vas me dire, ils n'ont pas étudié certainement le projet comme nous on pourrait l'étudier, mais est-ce qu'ils prenaient en compte l'explosion qu'il y avait dans le monde brassicole, en France particulièrement ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ils ont vu que c'était documenté et bien documenté, que j'avais fait un sondage, que j'avais fait des statistiques sur ces sondages-là, que j'avais toute une liste bibliographique qui prouvait qu'il y avait un renouveau de la bière artisanale en France. Et donc ça leur suffit, parce que je pense que en tant que banquier, ils ont pas c'est pas qu'ils ont pas la faculté, c'est qu'ils peuvent pas s'intéresser à tous les domaines d'expertise en fait. Donc ils sont obligés de s'appuyer sur une base documentaire qui leur paraît viable.
D'accord, ok. C'est quoi pour toi une bonne cave à bière, un bon marchand de bière, je sais pas comment on peut appeler ça, mais
ma conception des choses, d'ailleurs peu importe qu'on vende de la bière ou autre chose, c'est qu'est-ce que veut le client. C'est pour moi, il y a rien d'autre qui compte, c'est-à-dire quel est le besoin client. Est-ce que c'est la personne qui vient me demander conseil, est-ce que c'est pour elle-même, est-ce que c'est pour offrir, premier point. Ouais. Et puis après, moi, peu importe que je vende une pils, un stout, une IPA, en termes de chiffre d'affaires, ça me ramène la même somme d'argent, la même trésorerie. Oui. Mais le but, c'est que la personne reparte contente de son achat et que ça lui corresponde à elle, à ses goûts. Et après, y a des gens qui veulent des choses simples ou des choses qu'elles connaissent déjà ou des variantes de choses qu'elles connaissent déjà. Et il y a des gens qui veulent explorer. Et donc après, avec ces gens-là, on peut aller plus loin, on peut proposer des choses un peu inattendues. Et après, en retour, on n'a pas aimé, mais on a eu l'explication. Et donc, c'est pas grave, c'est pas de votre faute, c'est moi, j'aime pas, etc. Donc pour moi, c'est le besoin client qui rentre en jeu, quel que soit le business finalement.
Et comme un peu dans tous les commerces, en somme, oui. c'est le conseil client.
C'est
qui
le conseil.
Va
faire. Je dis souvent, je vends un conseil avant un produit.
D'accord, ok. Voilà. C'est intelligent.
Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je vois mon métier de tous les jours. Donc après, il y a des gens qui viennent chercher toujours la même bière. Là, ouais. J'ai pas besoin de conseils. Donc là, c'est un flux qui est régulier, récurrent, etc. Et puis après, y a des gens de passage, des touristes qui veulent ramener, parce qu'ils ont de la famille ailleurs, en France, dans le monde, etc. Donc ils veulent ramener un petit panel. Et donc là, j'ai des conseils. Et puis après, il y a ceux qui veulent vraiment découvrir. Et donc en fait, moi, j'ai une variété de styles qui est adaptée à cette multitude de clients.
Et tu n'as pas une... Comment est-ce qu'on peut appeler ça une clientèle qui est justement tout le temps sur les réseaux sociaux qui est...
Je pense pas. J'ai une petite communauté qui me suit sur Facebook, sur Insta, maintenant un peu sur LinkedIn également pour d'autres raisons. Enfin, on y reviendra certainement ouais. Après. Il y a une clientèle qui est assez mixte, mais en fait, vu que je suis un magasin physique, et c'est ce que je dis aux gens, vous venez me voir et vous venez régulièrement me voir. Donc en fait, ces clients-là, finalement, n'ont pas besoin d'aller voir sur Facebook, puisque d'eux-mêmes, de toute façon, ils viennent toutes les semaines ou tous les 15 jours.
Mais ce que je veux plus dire, à la limite, c'est t'as pas des aficionados, d'Untapped qui regardent la dernière nouveauté.
Non, parce que ma clientèle, c'est plutôt une clientèle qui aime bien la bière. Oui. Mais qui ne connaît pas le produit.
D'accord, okay.
En tout cas, les spécificités, la diversité du produit. J'ai forcément des beer geeks qui viennent parce que j'ai quelques références geeks que j'ai, mais je les ai pas parce que c'est des références geeks, je les ai parce que c'est une diversité des styles et c'est cette diversité-là que je veux mettre dans le magasin.
Oui.
Et ces références-là en particulier, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement que pour les geeks, mais les geeks, en fait, c'est peut-être 5 ou 10% de ma clientèle maximum.
C'est ça.
Voilà. Donc, j'ai pas à me soucier de ces gens-là parce que, en fait, ils sont peut-être même au courant avant moi des dernières nouveautés, etc. Sur ce que je peux faire.
Ouais, ça rejoue un petit peu la question suivante que j'ai préparée. Je te demandais ce que tu proposais dans le magasin. C'est quoi réellement les produits que tu aimes mettre en avant?
Alors, ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est quoi votre bière préférée? C'est quoi le top du magasin? Et je réponds texto aux gens, on s'en fout. On s'en fout de ce que j'aime, on s'en fout du top 1, c'est vous aimez quoi?
Ah non, mais c'est pas ce que toi tu aimes, mais les produits que tu aimes mettre en avant parce que peut-être justement, comme on le disait tantôt, la philosophie de la brasserie.
Tous mes produits sont, on va dire, ou quasi 98% de mes produits sont testés et approuvés. C'est-à-dire que toutes les refs que j'ai dans mon magasin, je les ai goûtées. Et donc, peu importe la ref que moi j'aime ou pas sur mes goûts perso, si je pense l'avoir validée techniquement, elle est à mettre en avant quoi qu'il arrive. Et donc, dans mon magasin, les bières sont classées par saveur aromatique générale et pas par brasserie.
Ok, oui.
Voilà, donc il y a les IPA d'un côté, les stouts de l'autre, les gueuses sur une colonne, il y a les bières fumées et tourbées sur une colonne. Donc voilà, tout est classé avec une signalétique qui permet aux gens, quand je ne peux pas être là pour un conseil parce que je suis occupé ailleurs dans le magasin ou à la caisse, etc., de pouvoir se repérer très très facilement et d'aller chercher eux ce qu'ils aiment ou de détecter « Ah ben non, ça je veux pas, je vais passer au rayon d'après en fait ».
Oui. Alors, les amis auditeurs, j'en profite, il le sait bien, deux ans, je me suis permis de le faire, de le taquiner. On a un invité... on a un invité français, donc on a eu le premier 98% et pas 98%.
Ah oui, pardon, oui, ouais, je suis désolé, j'étais trop.
Ne sois pas. Non, ne sois pas. Dans les statistiques, j'ai énormément de Français qui nous écoutent, donc ils vont se retrouver.
Il n'y a que le terme 75 que j'arrive à peu près à maîtriser, mais c'est vrai que sur les 90, je suis encore un. Je dois travailler encore.
Non, mais c'est moi. C'est moi qui te reçois, donc je devrais normalement faire l'effort. Le Houblon Gourmand, ce n'est pas qu'un magasin qui vend et qui conseille des bières, c'est aussi des ateliers œnologiques sur des thèmes différents. Ouais. J'ai vu ici récemment, si je ne me trompe pas, sur les céréales. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ?
Oui, alors on a mis ça en place depuis le mois de septembre. Donc c'est les ateliers, ça se passe le samedi après-midi de 15 à 17, mais en réalité ça se passe plutôt de 15 à 18h30.
c'est étonnant.
Dans la réalité des faits. Je choisis en général 6 bières dans le magasin, totalement différentes les unes des autres, et je les explique aux gens. C'est-à-dire, j'explique pourquoi la bière a ce goût-là, pourquoi les matières premières, d'où ça vient, la culture de la bière, l'histoire, la géographie, enfin le style historique, d'où il provient. Et c'est surtout un échange sur la dégustation, en fait, sur des ressentis, pour que les gens puissent mettre des mots sur des ressentis. D'accord. Et pour expliquer que c'est pas parce qu'une bière est acide qu'elle est pas bonne. Si elle est acide, c'est parce que c'est voulu, ça fait partie d'un style. Et donc, c'est là où je reviens sur l'analogie avec le vin. En vin, on parle de cépage. En bière, on parle de style. Et quand je dis aux gens, il y a 85 styles de bière dans le monde. Ah ouais. Et donc, c'est ça que les gens viennent découvrir. Donc ça, c'est un atelier œnologique classique. 6 styles différents. Et sur l'atelier de samedi dernier, donc les céréales, là j'ai choisi 6 styles différents également, mais que sur des bières céréalières. Donc j'aurais pas mis cette bière-là, par exemple, dans l'atelier. D'accord. Et ce que j'appelle les bières céréalières, j'ai mis une bière de blé, une Berliner Weisse, qui est une bière acide. J'ai mis une bière ambrée, mais une Irish Red Ale, pour expliquer également ce style-là en particulier dans les ambrées. J'ai mis une bière tourbée. J'oublie les autres parce que j'en ai mis 6, mais en fait voilà, c'était juste aussi pour dire que les céréales, c'est pas que la couleur de la bière. On a parlé de la couleur de la bière, et juste à poser un verre de bière comme ça, quelle que soit sa couleur, sans le mettre son nez dans le verre ou sans goûter, on peut pas détecter un degré d'alcool, on peut pas détecter une amertume, une douceur, on peut pas détecter plein de choses. Et donc la couleur, c'est une partie du goût de la bière, mais c'est pas que. Après, il y a la dégustation.
Alors ça, c'est tellement le débat, ça, ouais. de je vois une bière blonde, je vois une bière...
C'est ça. Mais cette question revient très régulièrement. Je souhaiterais une bonne bière blonde pour l'apéro. Selon l'humeur du jour, je taquine un peu les clients. Je dis, il faut m'en dire un peu plus, parce que si vous me demandez une bière blonde, c'est comme si vous me demandiez un vin rouge. Et quand vous rentrez chez un caviste vin en demandant un vin rouge... Eh ben, vous voulez un Bordeaux, vous voulez un Pinot Noir d'Alsace, vous voulez un Bourgogne.
Ouais, c'est très bien dit, ça.
Et voilà, et donc j'explique toujours de cette manière-là, et les gens comprennent. Mais c'est juste pour ce côté éducation de dire une bière blonde, il faut m'en dire plus. Est-ce que vous voulez une bière légère, une bière forte, une bière douce, une bière amère? Puis après, on creuse, et puis après, on arrive à une sélection. Et puis après, les gens se laissent tenter, des fois, par d'autres styles même. Quoi.
Mais je pense que c'est historique de dire je veux une bière blonde, j'aime pas la bière brune. Ça apparaît.
Par exemple, dans l'atelier de samedi, c'est revenu la Tint Mido. J'ai fait goûter la Tint Mido. Et dans l'atelier, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas les bières brunes et qui a adoré cette bière.
Ouais.
Parce que considérer que les bières brunes, on va dire trappistes, qu'elle connaissait, Rochefort, Westmalle, etc., côté un peu rond, un peu sucre, que la Tint Mido n'a pas du tout. Quoi.
Très fort sur le café.
Pas tant que ça, t'as un côté un peu réglisse, un peu chocolat, mais pas tant que ça en fait. T'as du café, mais en fait, moi j'explique la Tint Mido comme étant la Rochefort 8 sans le sucre.
D'accord.
Et en fait, c'est vraiment cette sensation-là d'amertume un petit peu de grain, de torréfaction. Et donc, c'était pour moi, le pari est gagné quand je fais découvrir une bière de ce type-là. Parce que ça permet à la personne de se dire « Ah ouais, en fait, non, j'aime pas les bières brunes qui ont ce goût-là, mais en fait, il y a peut-être d'autres bières brunes qui me sont plus accessibles. » Et voilà. Et donc après, sur conseil, je peux être conseillé là-dessus, quoi.
Ben voilà, du coup, je sais que je dois goûter la Tint Mido parce que ça fait longtemps que, Je l'ai goûté quand elle est sortie, mais je n'en avais plus rebu depuis. Vincent, tu as également dans tout ton panel d'activités de la consultance pour.
Alors ouais, j'essaye de monter ça. J'ai fait donc au-delà de faire des ateliers, ça m'est déjà arrivé de manière assez ponctuelle de faire des animations en extérieur, donc des ateliers pour une association, pour un restaurant, restaurant gastronomique. Et donc ça me plaît beaucoup puisque finalement c'est juste pour moi un atelier externalisé. C'est le même travail mais juste dehors en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc je fais des ateliers de zytologie, de dégustation de la bière, mais je fais également des ateliers de pairing, d'accord bière aimée. Et donc j'ai déjà fait au magasin bière et fromage, mais j'ai des prototypages de bière et pâtisserie, de menus en fait, de A à Z, enfin voilà, il y a des choses que j'écris, il faut que je teste, et moi je teste toujours mes accords avant de les proposer quoi qu'il arrive. Et dans restaurant gastronomique, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un mois et demi, deux mois, en six services, on a proposé voilà, six bières voilà, tout le long du repas en fait quoi.
Et les restaurateurs que ben forcément que tu côtoies, oui, ils sont ouverts à ça, mais est-ce que tu penses que les restaurateurs, enfin tous les gens du CHR,
ouais,
chez
CHR,
vous,
mais tu peux dire Horeca, de toute
chez
façon,
nous Horeca, ouais. Oui. Est-ce qu'ils sont de plus en plus ouverts? Enfin, je me doute bien qu'on va peut-être pas forcément faire des accords bière aimée dans une brasserie. Alors de nouveau, c'est pas péjoratif le terme petite brasserie, ouais. mais je veux dire, c'est pas ce qu'on recherche dans une brasserie. Est-ce que tu penses que les gens sont ouverts à ça? Est-ce qu'il y a de la demande pour ça?
Je pense que les chefs qui ont cette demande, c'est des gens qui naturellement s'intéressent à la bière. Les autres, ils peuvent s'y intéresser. Il y en a, bah justement, le resto avec qui j'ai travaillé, je pense qu'ils savent qu'il y a un potentiel sur la bière et je pense que c'était un test. Le test était concluant, donc je pense que c'est des événements qui vont revenir peut-être plus tard dans l'année, en tout cas de manière plus régulière. Mais il y a une éducation aussi à faire pour ces gens-là qui sont le plus souvent... Quand on s'adresse à des gens qui ont même 10 ans, mais 15 ans, 20 ans, 25 ans d'expérience, qui ont été formés dans l'esprit du vin, en école d'hôtellerie, et donc qui connaissent très très bien la technicité du vin, mais où là, il y a tout à faire sur la bière. Et à ces gens-là, bah justement, je me souviens d'avoir fait goûter la Rodenbach Vintage.
Oui.
Et ils ont été étonnamment surpris et positivement surpris. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais goûté ça. Ils ont adoré, mais ils ne savaient pas quoi en faire, si tu veux,
d'accord.
Dans les recettes qu'ils conçoivent tout le temps. Ils ne savaient pas comment appairer cette bière-là.
Oui.
Et donc, je pense qu'il y a une éducation du personnel... du personnel CHR ou Horeca à faire pour les gens qui ne s'intéressent pas à la bière, en tout cas. Et après, on n'est qu'au début de quelque chose.
Ouais, oui. Je suis d'accord.
Moi, en fait, en 2015, sur le début de mon projet, je pense qu'il y avait déjà des gens, ça faisait déjà peut-être 5 ans, les premières micros vraiment en France commençaient à se développer seulement. Donc, c'était encore timide, mais voilà, on est passé en France de 200, à peu près 200 brasseries en 2010, et là, on est à 2400 en 2022.
Ouais,
donc, mais la progression, elle n'a pas été linéaire, elle a été exponentielle, en fait. Donc,
ouais.
En 2015... Une IPA, personne ne savait ce que c'était encore. Pour le commun des consommateurs de bière. Et c'est venu qu'en 2017-2018. Et donc, il faut se dire que le pairing, les accords bière aimée, les gens n'ont jamais entendu parler de ça. Bière et fromage, bière et charcuterie, oui, parce que c'est un produit qui est considéré comme apéritif. Mais quand je parle des accords bière et huître ou bière et dessert, les gens sont assez étonnés de savoir qu'on peut faire ça, en fait,
ouais,
au long
oui.
du repas. Donc on n'est qu'au début de quelque chose. La tendance va se développer. C'est encore timide, mais il y a tout à faire. Donc,
oui, mais comme tu le disais, je pense que les gens sont sur le vin depuis des dizaines d'années, je pense. Et c'est compliqué de faire changer les
oui,
mentalités.
Oui, les mentalités, mais ça va venir petit à petit.
Et puis, il faut reconnaître, pardon, je t'interromps, il faut reconnaître aussi que vous êtes... Enfin, vous, français, un pays du vin.
Oui.
Et donc, bah, forcément.
Alors, après, c'est plus. Alors, il y a deux choses. Coupe-moi si je vais trop loin, mais Nord-Pas-de-Calais, c'est plus facile parce que finalement, on est vos voisins et donc l'influence de la bière belge en Nord-Pas-de-Calais, elle est très importante. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce public-là.
Oui.
Dans le reste de la France, en tout cas dans les régions au sud de Paris, c'est plus compliqué, mais du coup, il y a également moins d'influence de la Belgique ou d'autres pays brassicoles. Et donc là, la créativité en termes de recettes de bière, voilà, peut aller finalement naturellement beaucoup plus loin. C'est-à-dire que des nouveaux brasseurs qui s'installent en Nord-Pas-de-Calais, souvent, ils brassent des bières assez conventionnelles,
traditionnelles,
ouais. Tandis que dans les régions au sud, tout de suite, ils vont aller sur des assemblages avec des mares de raisins, avec des barricages, etc., parce qu'on est sur des régions plutôt viticoles, et donc c'est plus facile pour eux d'allier ces deux saveurs-là ensemble. En fait,
ouais. Mais on aura l'occasion probablement d'en reparler un petit peu. Là je vais devoir relancer mon super jingle parce qu'on arrive tout doucement au super jeu. Alors pour les auditeurs fidèles, ils savent que c'est souvent absurde, enfin débile, enfin bon, c'est ma petite marque de fabrique. Je lance le jingle et on revient juste après ça. Alors attention parce que celui-ci en particulier, il est déjà idiot rien que dans le titre. Donc j'ai appelé ça le bière-cuse. Donc c'est la contraction entre bière et bocuse. Bocuse, tu vois. Tu vois,
ouais.
Déjà là c'est ridicule. Donc je vais te donner en fait des classiques de la gastronomie française et je voudrais que tu me donnes l'accord que tu
me vient à l'esprit.
Que tu verrais avec ces plats. Alors là on est bien d'accord, on juge rien, c'est pas un examen non plus, on fait ça à la volée, donc
ça marche.
Alors souvent vous pouvez parler avec n'importe quel zytologue qui fait des accords mets et bière, et je pense que c'est valable aussi pour tout en fait, pour le vin et même pour d'autres choses. Il faut goûter, donc quelque chose qui peut fonctionner sur papier,
c'est exactement ça,
ne fonctionne pas toujours en réalité. Alors mon cher Vincent, qu'est-ce que tu verrais bien avec le coq au vin?
Coq au vin, c'est un plat qui est assez riche, qui peut être caramélisé, qui peut être un peu acide, un peu vineux.
Oui.
Et moi, j'irais sur une bière qui assèche tout ça, mais ça pourrait être pour une saison même au seigle, avec quelque chose de très épicé, pas houblonné, ou très peu houblonné, voilà, quelque chose qui va vraiment assécher tout ça. Ou ça pourrait être également, pour renforcer ce côté grillé, justement une Irish Red Ale. Parce que les Irish Red Ale, il y a un côté un peu caramel en bouche qui arrive, et le finish, il est justement beaucoup plus torréfié, beaucoup plus sec.
Oui.
Et donc ça va éponger un peu le fond de sauce. Donc voilà, peut-être ces deux-là, comme ça, à froid.
À tester, si vous voulez essayer... Alors, qu'est-ce que tu verrais avec la ratatouille?
Alors, la ratatouille, là, par contre, une bière houblonnée. Bière houblonnée, mais pareil, herbacée, végétale. J'irai pas sur la grande famille des IPA avec des choses plutôt fruits exotiques, etc. Ça n'aurait pas de sens. Donc, la ratatouille, il faut aller sur des choses simples comme ça. Mais ça pourrait être une bière de blé. Et justement, en tête, j'ai une bière de blé au fenouil. Et donc, ça rajouterait le petit peps anisé qui servirait d'assaisonnement à la ratatouille.
D'accord, ok. Alors, la suivante, j'en suis fier. J'aimerais savoir ce que tu mettrais avec un bon vieux cassoulet.
Alors là, pareil, là, faut trancher là, parce que là, on est sur
sur du lourd.
On est sur du lourd.
Sur alors, du confit.
c'est confit. Le cassoulet, c'est un plat qui a beaucoup de goût.
Oui.
Mais qui n'a pas forcément beaucoup de puissance. C'est comme ça que je le considère, en fait.
C'est ultra rond.
Oui, c'est très rond, c'est très gras, c'est très... Également, il y a peut-être un côté sucre et umami qui est très là. Et donc là, par contre, c'est pareil. Là, il faut assécher ce plat-là. Moi, j'irais, pourquoi pas, sur une bière un peu plus vineuse. Alors, il faudrait le tester. Aller sur une eau de brune, une eau de brune assez sèche, ou une vieille brune, désolé pour les flamands, une fois de plus. Quelque chose, enfin, une bière qui apporte un côté vineux et acide.
D'accord. Qu'est-ce que j'aime, les eaux de brune?
Je pense à la vieille brune de chez Thierry, par chez moi. J'irai pas sur la duchesse de Bourgogne, parce que la duchesse a encore un caractère un petit peu caramel et sucre. Et ouais. Donc, ça serait trop. Et donc, en Belgique, j'irais, pourquoi pas, sur la Oudebrun de chez Verzette.
Ouais.
Pourquoi pas.
Ouais.
Pourquoi pas.
Alors, le suivant. Ça, par contre, je vais peut-être l'expliquer. Je ne sais pas si tout le monde connaît. La Ligo. Ouais. Donc, purée de pommes de terre avec de la tomme fraîche et à la crème. Donc, c'est une spécialité auvergnate. Alors, ça a tendance, ils le servent en filant, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, oui.
Donc voilà, qu'est-ce que tu verrais
Alors là, bizarrement, il y a un style de bière qui me vient tout de suite à l'esprit, mais je sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a des houblons alsaciens qui s'appellent les houblons Barbe Rouge et Elixir, qui vont s'exprimer sur le cassis et les petits fruits rouges, et aller sur une pale ale avec une utilisation des houblons en houblonnage accru. Ça veut dire qu'on va développer les arômes de ces houblons-là. Et donc, j'ai une bière en tête voilà, qui s'appelle La Plèbe, par exemple, une brasserie qui est à 45 minutes de Lille, qui utilise ces houblons-là. Pourquoi pas, en fait, parce que c'est une bière qui va être sèche, qui est assez légère et qui va contrebalancer, pareil, ce côté très crémeux en fait, de la Ligo et très gras. Mais après... Une bière fumée, ça pourrait être cool aussi.
Bière fumée, d'accord.
Ouais. Sur le fromage fondu, bière fumée, ça fonctionne.
Plutôt allemande, comme tu...
Plutôt allemande, mais plutôt Rauerbier, du
ouais,
coup.
C'est ça.
Plutôt peut-être un peu ambré, ouais.
Okay.
Pas les bières de blé fumé qui sont beaucoup plus légères en alcool et qui ne soutiendraient pas, qui se feraient balayer par la Ligo. Donc ouais, au moins une Rauerbier, sans problème.
Ok. Alors, le plat suivant, on passe dans les desserts. Et alors, j'ai une petite pensée toute particulière pour notre ami Michel Florquier, qui a déjà été ici invité dans le podcast. Je sais très très bien ce que Michel mettrait avec ce dessert, mais j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu mettrais avec une crème brûlée ?
Ah. Il y a plein de choses à faire avec la crème brûlée. Le premier truc, mais c'est aussi parce que j'aime bien ces bières-là, c'est du thon sur thon, c'est de la résonance, c'est de la gourmandise. Et moi, je suis un bec à sucre aussi. Moi, j'irais sur un Imperial Stout barriqué en fût de Bourbon.
Sur la crème brûlée.
Ouais.
D'accord.
Sans problème. Mais on pourrait aller sur une quadruple barriquée en fût de Bourgogne rouge également. Pareil, pour amener de l'acidité, et puis pour alléger un petit peu l'ensemble. Et sur les quadruples, barriqués en fût de vin rouge notamment, on sent pas en bouche qu'il y a 10, 11, 12, 13 degrés. Ça semble beaucoup plus léger, et donc ça se boit plutôt facilement. Attention, ça fait quand même 12 degrés.
Ouais, là, le petit clin d'œil du coup à Michel, parce que c'est bien vers la quadruple, je crois qu'il aurait été. Et le dernier, le fameux fondant au chocolat.
Alors là... Alors là, il y a trois choix possibles. Le chocolat, c'est un des exemples que je prends toujours pour expliquer les accords de résonance, de complémentarité et de contraste. En résonance, chocolat et café, donc moelleux au chocolat et un stout, un impérial stout. Donc après, ça va dépendre, c'est toujours pareil, de la teneur en chocolat qui est mis dans le gâteau, si c'est un chocolat au lait ou un chocolat noir. Et donc ça, il faut adapter le stout à ce dessert-là.
Et peut-être porteur un peu plus sec.
Oui, ça peut être porteur, mais on peut redescendre. Voilà, si c'est un chocolat au lait, on peut. Il y a une recette qui était éphémère que j'avais, c'était la Portez-vous bien, qui était plutôt axée sur le cacao, justement. Et donc, une bière à 6 degrés. Et donc, ça, sur un moelleux chocolat au lait, ça passe très bien. Si c'est un moelleux chocolat noir, il faut une bière un peu plus puissante, il faut monter un peu en alcool à 8-9 degrés. Et donc, là, on peut aller sur quelque chose de plus torréfié, plus sec, plutôt expresso, en fait.
Ok, d'accord.
Et donc sur la complémentarité, eh ben on va couper avec quelque chose de vineux, de fruité, ça peut être une crique tout simplement.
Oui.
Et après sur le contraste, j'ai quelques bières de temps en temps qui sont avec des infusions de piment.
D'accord, oui.
Et donc, je sais que le chocolat et le piment, alors j'ai jamais eu l'occasion de tester ça,
oui.
Mais je sais que c'est utilisé en cuisine pour faire un peps en bouche. Et donc, voilà, j'ai une bière avec une infusion de piment, pourquoi pas.
Alors, j'ai pas goûté ça des dizaines de fois, ouais. Mais j'ai eu l'occasion de goûter. Et c'est vrai que ça réveille.
Okay.
Déjà, le piment en tant que tel, ça réveille les papilles, mais là, avec le chocolat, c'est vraiment chouette.
Ok, ça marche.
Et à titre privé, alors j'aimerais savoir, toi, tu apprécies aussi chez toi faire du beer pairing, tu fais ça régulièrement?
J'en faisais, avant d'avoir le magasin, j'en faisais beaucoup, et c'est comme ça aussi que je me suis auto-formé là-dessus. Quand tu vas regarder mon Facebook d'il y a 4 ans, les photos sont horribles, ça ressemble à rien, mais c'est mes premières planches de beer pairing. Donc j'ai commencé très simplement par du fromage, puis après j'ai fait une quiche, où j'ai remplacé la moitié de la crème fraîche par une crème à la tomate, où j'ai testé une saison dessus, j'ai testé par exemple un carpaccio de pommes poires de manière très très brute, hein. Moi c'est comme ça que je voulais monter le resto, des choses très très brutes, très très simples, et j'ai testé avec une gueuse cantillon, et je l'ai testé également avec une Dunkelweizen.
Okay.
Et les deux fonctionnaient bien. Mais c'est les essais qui m'ont fait apprendre les accords et l'orientation que peuvent prendre certains goûts quand on les met ensemble. Et donc, de temps en temps, j'en fais encore, mais ça va être un plat ou un dessert où je vais sortir une bière et je ne fais plus des menus complets parce que j'ai plus forcément le temps pour faire ça.
Ouais, et puis tu le fais déjà au travail. Donc.
Et je le fais un peu au travail. Et le plus facile, c'est le fromage parce que c'est juste de la découpe. Après, le reste, ça reste de la cuisine. Et donc, de la cuisine, c'est du temps. C'est pas à toi que je vais apprendre ça.
Bah oui, mais enfin, quand on est passionné, c'est ça.
C'est ça.
Alors, chers auditeurs, je vais être honnête avec vous, ça fait déjà 50 minutes qu'on est avec Vincent, on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter l'épisode ici, parce que là, on est à peine à la moitié de ce que j'avais préparé. On va céder l'interview en deux épisodes. Donc, je vais remercier quand même mon invité.
Merci à toi, Kevin.
Alors, nous, on se retrouve dans 3 minutes, mais vous, on se retrouve probablement dans 15 jours. Je vous salue. N'hésitez pas à aller vous abonner aux réseaux sociaux en règle générale. Et à dans 2 semaines. Allez, santé.
Salut.